Vous écoutez le podcast de Mona FM. Vous avez peut-être suivi Greg Zlap et notre invité. Et on parle de son livre. Juste avant, je vous donne des dates. Parce que le 7 décembre, il sera à Drocourt, près de Lens. Et le 15 mai, retour au Splendide pour Lille, pour Greg Zlap avec Rock It, un album qui est en train de se terminer. Est en studio et ça serait une nouvelle tournée. Donc si vous voulez voir l'ancienne tournée, c'est le 7 décembre à Lens, juste à côté à Drocourt, et ensuite le 15 mai ça se passe à Lille. Mais du coup sur le podcast, parce que Johnny Hallyday c'est déjà un mythique, et Greg, quand on passe 10 ans avec Johnny Hallyday, on découvre plein de choses, on apprend plein de choses aussi, et dans ce livre qui vient de sortir sur la route avec Johnny, c'est vrai que quand on reçoit plein de livres, on reçoit plein de choses, avec Johnny qui disparaît, il y a plein de gens. Mais moi, j'ai lu plus qu'un bouquin, j'ai lu toute une histoire imagée avec plein de choses. J'ai découvert un Johnny totalement différent avec toi, quelqu'un qui s'ouvre aux gens, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de choses autour de Johnny depuis sa disparition. On a cette soi-disant guerre entre les enfants et tout ça, donc c'est vrai qu'on oublie pas mal de choses. Mais on oublie surtout que Johnny Hallyday était quelqu'un qui faisait confiance à ses musiciens. Confiance à son équipe. Toi, tu es rentré assez simplement. Yvan Cassar a fait écouter. Tu t'es rendu compte qu'il avait besoin de toi. Tu es arrivé dans cette tournée et tu racontes dans le bouquin un truc de dingue. C'est qu'à un moment, il va falloir te payer. Il faut un contrat. C'est-à-dire qu'il faut, il faut signer quelque chose parce que tu vas partir en tournée avec Johnny et tu sais pas combien on est payé. C'est ça? Tu sais pas combien, tu sais pas quoi faire en fait.
Le truc inédit en fait dans cette histoire, c'est qu'il s'agit de l'harmonica. C'est-à-dire,
c'est pas la batterie, l'harmonica, c'est pas la guitare électrique, mais oui, c'est pas les cuivres.
Personne n'a besoin d'un harmonica. Il faut le comprendre. Personne. Quand on monte un groupe, on a besoin d'un guitariste, d'un bassiste, d'un batteur. Uh-huh. Qui a besoin d'un harmonica? Personne. Donc ça, c'est toute ma vie, je le sais. Mm-hmm. Moi, je mène une carrière d'harmoniciste, donc je joue de l'harmonica. J'ai appris qu'il fallait proposer des choses, parce que sinon, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, ce qui est incroyable dans mon histoire avec Johnny, c'est que dès la première rencontre, quand je l'ai rencontré, il m'a parlé de l'harmonica. Et il savait ce qu'on pouvait faire avec un harmonica. Et donc, il avait une vision pour moi avec cet instrument. Donc pendant les 10 ans, Johnny, il savait toujours...
Où te placer, en fait.
Où me placer, il me présentait à part, il me donnait vraiment une grande place sur scène avec l'harmonica, ce qui est... Voilà. On est habitué à imaginer des guitares héros. Sur scène avec Johnny.
Donc tu as fait quoi? Tu t'es renseigné auprès des autres musiciens? Tu as essayé de...
Oui, et donc à un moment, donc je débarque chez Camus Productions. Moi, je n'ai jamais fait de grande tournée.
J'ai jamais fait de grande tournée qui va être quasiment mondiale. T'es harmoniciste.
Si c'est Johnny Hallyday, voilà. Donc je ne savais pas. Donc j'ai demandé à des copains combien c'est payé un musicien de tournée. Donc voilà, et ils m'ont dit ouais.
Bien, avec Johnny encore
bien,
mieux.
Voilà, donc mais en gros, je savais rien. Et puis, je m'assois derrière le bureau. C'est Roger Abriol qui me recevait. Et puis, il y a un contrat à signer. Il m'explique. Alors, il me dit, texto, il me dit, écoute Greg, on ne sait pas ce que tu vas faire sur cette tournée. À l'harmonica, il y a un set acoustique, blues au milieu, peut-être c'est là-dessus que tu vas intervenir. Et donc, il m'explique que l'harmonica n'aura pas de place importante. Et moi, je ne savais pas non plus quelle place j'aurais dans le spectacle. Et là, il note un chiffre sur un post-it, il plie le post-it, il me le glisse comme dans un film, hein. Il me le glisse sur la table. Donc moi, je découvre le chiffre et je dis, oui, très bien, c'est ce que j'essayais de faire le malin. Je dis, oui, c'est ce que je m'attendais à avoir.
Le chiffre était déjà gros, en fait.
Et donc, j'ai signé. Et puis ensuite, j'ai découvert que j'étais payé moitié moins des autres musiciens de la tournée. Parce que personne dans l'entourage, dans la production, ou même, enfin, c'était comme ça pendant 10 ans. À part Johnny, personne ne savait que faire de moi de cette harmonica au milieu de ce spectacle rock.
Et il y a même un
rock.
Monsieur, et tu en parles, c'est Philippe Huminski qui travaille et qui travaille avec Johnny, qui à un moment t'a dit aussi, je sais pas ce que, voilà, je connais pas cet instrument, et tu le racontes en fait dans le bouquin, il sait pas quoi faire en fait. C'est Johnny en fait qui décidait tout pour toi.
Oui,
autres se posaient pas la question en fait.
Oui, c'est Johnny par exemple qui m'a proposé le solo, de faire le solo sur Gabriel. Gabriel, c'est un titre qui depuis 76 ou 78, 76, je crois, c'est un tube que Johnny a joué à tous ses concerts.
Ouais.
Jusqu'au bout. Donc jusqu'à la Madeleine finalement, parce que à la Madeleine, ce titre avait été joué. Et donc quand je suis arrivé, il me dit en répétition. Greg, est-ce que tu peux faire un solo d'harmonica là-dessus? Voilà, j'ai fait un solo, voilà, j'ai improvisé, et donc c'est lui qui a eu cette idée-là. Et il est venu me voir et il me dit bon, très bien, mais tu vas pas rester planté comme un piquet derrière ton micro quand on va faire le show. Et là, j'ai compris en fait que c'était
vous l'avez évidemment un rapport, en fait, une bagarre.
Oui, évidemment, hein, il est entouré. Tout le monde le sait. Johnny, c'est toujours entouré de très bons musiciens.
Oui.
Donc ça, c'est voilà, on se sent vraiment valorisé quand on se retrouve chez Johnny.
Les musiciens de Johnny, en fait, ont deux capacités. Ils sont capables de le suivre s'il va plus vite ou machin. C'est en fait, ils le connaissent par cœur. Et Johnny est capable aussi de faire le contraire. C'est-à-dire que s'ils mettent un plus de batterie ou quelque chose, il est aussi capable. C'est un vrai groupe, en fait, Johnny.
Oui.
C'est vraiment tous ceux avec qui il était depuis des années, ou quand il allait chercher des nouvelles personnes comme toi, en fait, il avait besoin de ce rapport et d'avoir aussi un rapport de force, des fois. Hein. On avait l'impression qu'il y avait des battles entre toi et lui.
Oui.
Et que ça montait encore plus sur scène.
Parce que il était dans l'instant. Un show, c'est un truc sacré. Donc il se passait beaucoup de choses sur scène qui étaient improvisées, qui étaient faites sur l'instant. Et moi, j'ai compris ça quand il m'a dit « Tu vas faire le show ?» J'ai compris tout de suite qu'il voulait... il cherchait pas au moins un virtuose d'harmonica qui serait là et il interpréterait parfaitement bien des partitions. Et il cherchait un showman. Donc il avait cette vision pour moi. Et donc je lui ai promis ce jour-là, je lui ai dit, Johnny, je te promets, je vais faire le show, je vais me rouler par terre s'il le faut, mais je le ferai. Mais de là, en fait... je me suis dit, mais ça veut dire quoi, en fait, faire le show?
Oui.
Et pour moi, donc, parce que je n'avais pas fait les grands concerts. Je n'ai jamais vu un concert de Johnny Hallyday. Il faut que tu le saches. Je suis un des D'accord, rares Français ouais. qui n'ont jamais vu un show de Johnny Hallyday.
Parce que tu l'as vu, mais sur scène.
Parce que je les ai fait. Voilà. J'étais sur scène avec lui. Donc, je n'ai pas eu ce choc, en fait, que les gens racontent en disant, voilà, je suis allé voir le show de Johnny Hallyday. Même ceux qui n'aiment pas forcément Johnny Hallyday, s'ils sont allés voir le show, ils sont retournés. Ils disent, ce mec-là, il m'a retourné, c'était incroyable. Donc moi, j'avais pas vu ça. Et donc, il fallait que j'imagine, mais comment je vais faire? Et là, écoute, je suis un grand fan d'un groupe qui s'appelle Kiss.
Ah ouais?
Depuis mon adolescence, j'étais toujours fasciné.
Bientôt en tournée en France, je sais.
Oui, j'y vais, oui, oui. Ils font une date.
Ils font une date à Paris.
Alors, ouais. Et pour moi, j'étais voilà, j'avais les vinyles, je regardais les photos des concerts, et donc pour moi le show c'était Kiss. Donc il y avait du feu sur scène, il crachait du sang, il y avait des effets spectaculaires, et voilà. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux imaginer de plus extraordinaire? Bah je vais me mettre dans la peau d'un Gene Simmons de Kiss, et puis je vais essayer de faire le maximum. Donc c'est ce que j'ai fait.
C'est ton bouquin, c'est... Hein, et je vous le conseille, parce que il y a tellement de choses, on peut pas tout raconter. Ça s'appelle Sur la route avec Johnny. Dans ce livre, il nous explique comment il s'est mis à enlacer Mickey Rourke, qui était derrière à la Tour Eiffel, ce fameux concert où il y avait ta famille.
Oui.
Ça, hein, dans ce concert, il y a plein de photos, il y a des échanges de mails aussi assez sympathiques. C'est ça qui est assez dingue, c'est de se dire que Johnny participait à tout, bien sûr, mais il faisait participer tout le monde. Chacun envoyait son petit mail, ses petites choses. On parle de clash aussi. J'ai appris un clash à The Voice. Je vous en dis pas plus, allez dans le bouquin, vous allez découvrir. Le clash est fini, vous reparlez.
Mais bien sûr.
Bien sûr. Et puis bien sûr toutes les dates. Et certains qui ont déjà vu ou certains qui ont suivi Johnny, allez-y, parce que rien que ça, tu as mis, et ça c'est assez dingue, tu as mis toutes les dates de tournée, oui, même tout. Ceux qui avaient été annulés suite bien sûr au coma de Johnny, ou celles qui ont été annulées pour la pluie ou d'autres choses. Il y a vraiment, et je suis sûr que certains pourront se dire, ah, j'y étais là, mettre un petit trait, quelque chose. Il y a plein de photos, il y a plein de choses. Comment on se sent, ça sera ma dernière question, comment tu t'es senti quand t'as appris, voilà, comment tu l'as appris que Johnny était mort, en fait? Tu l'as appris comment?
Écoute, c'était assez incroyable parce que j'étais en concert, je jouais dans un club de blues où j'ai une soirée qui s'appelle Greg Time, où j'invite des musiciens pour un concert improvisé. Il y avait dans la salle pas mal de fans de Johnny, mm-hmm, qui me suivent. Et à un moment dans la soirée, donc, je me suis dit, ah tiens, je vais improviser le pénitencier. Et donc on a joué une version du pénitencier, et c'était assez émouvant. Et puis voilà, ça s'est fini tard, je suis rentré chez moi et j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir tranquillement. Et le matin, Elvire, donc ma femme et mon manager, donc m'a réveillé et me dit, est-ce que ça va bien? Faut que je te dise quelque chose. Et elle me dit, voilà, Johnny est mort. Et moi, j'ai vécu le coma de Johnny. J'ai assisté à sa bataille victorieuse sur les vieilles canailles.
Tu le racontes dans le bouquin, c'était la bataille des vieilles canailles, mais tu racontes aussi comment tu le redécouvres où il est invité surprise de Mathieu Chédid, alors que quelques mois avant, il était dans le coma.
Oui.
N'y crois pas.
On n'y croit pas. Et moi, j'y croyais pas. Johnny s'est toujours relevé. C'était un phénix. Donc, il s'est toujours relevé. Et en plus, il y a eu une semaine avant sa mort, il y a eu
des rumeurs.
Voilà. Donc on n'y croyait pas trop. Mais là, cette fois-ci, il y avait un communiqué officiel. Et donc, c'était d'un coup une espèce de vide. J'avais pas trop le temps d'y penser parce que les médias m'ont commencé à m'appeler pour témoigner.
Les médias ont commencé à t'appeler. Il y a eu forcément la Madeleine, tout le groupe qui s'est forcément réuni, où vous êtes retrouvés donc devant la Madeleine. C'est vrai que c'était une image hyper forte. Moi, j'étais devant ma télé comme tout le monde, je pense. Et te voir à côté du micro, le micro de Johnny, sans Johnny, groupe joué, on se dit que c'est pas possible, mais que malheureusement, voilà, le phénix est parti, que Johnny Hallyday, maintenant, c'est une légende et même plus. En tout cas.
Mais voilà. Ce qui était incroyable à la Madeleine, c'est que, effectivement, il y avait le micro de Johnny était seul. On a joué un concert. Donc celui de Johnny avec tous les gros tubes, les gens chantaient,
ouais.
Et surtout nous on avait vraiment l'impression, moi j'entendais la voix de Johnny, c'est tellement imprimé cette voix qu'il était là avec nous.
Il m'a marqué, et c'est l'image du prompteur, parce que le prompteur était là en fait.
Oui, il y avait vraiment le prompteur qui faisait défiler les paroles, et donc c'était très fort. Ce qui me touche énormément, c'est que, en quelque sorte, la force que Johnny m'a donnée pendant toutes ces années sur scène, j'ai énormément appris à ses côtés. Et aujourd'hui, je me sens toujours porté par cette énergie-là, par Johnny. Et je ne monte plus sur scène sans avoir une pensée à lui, parce que je me reconnecte avec cette vision de la scène qu'il avait lui. Ce côté sacré du spectacle. Et donc ça me donne un cap, en fait, pour tous les concerts. Donc Johnny, voilà, Johnny est pour moi un parrain dans la musique, dans les concerts, et il m'accompagne toujours.
Greg Slab sur la route avec Johnny, 282 concerts, 10 ans de complicité. C'est chez Hors Collection. Je vous conseille ce livre. Il est voilà. On n'a pas tout raconté. C'est à voir absolument. Et c'est un des plus beaux livres qui parle sincèrement de Johnny. Merci beaucoup, Greg.
Merci.